Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à ce Mardi de l'espace, organisé comme à chaque fois par le CNES, l'Agence française de l'espace. On va parler du Soleil ce soir. Zoom sur le Soleil avec Solar Orbiter. Solar Orbiter, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a décollé en février 2020. Et alors là où beaucoup de missions passées faisaient surtout de l'imagerie du Soleil, et c'était fantastique, on avait des images absolument extraordinaires du Soleil, et bien cette fois, on va pas seulement faire de l'imagerie, on va faire aussi de la physique. Solar Orbiter, c'est vraiment un laboratoire de physique qui est envoyé en orbite autour du Soleil. Et on va s'attaquer avec Solar Orbiter à trois grands mystères sur le Soleil. Et l'un de ces mystères, c'est le mystère de la couronne du Soleil. Et oui, parce que si vous regardez la température de la surface du Soleil, il fait 6000 degrés. Et si vous montez en altitude, si vous vous éloignez du Soleil, il fait plus chaud et non pas moins chaud, il fait 1 million de degrés. 6 000 à la surface, 1 million dans la couronne, c'est très étrange. Solar Orbiter a commencé déjà à donner des résultats et donc on a commencé déjà à lever le voile sur certains mystères. Alors quels sont ces mystères? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Comment est-ce qu'on va y parvenir? Qu'est-ce qu'on a déjà réussi à réaliser? Eh bien, ce sont des questions que vous allez pouvoir poser, parce que je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants, que je vais aussi avoir le plaisir d'interviewer, bien sûr. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. Il s'agit de Kader Amsif et de Milan Maksimovic. Bonjour à tous deux. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes? On commence avec vous, Kader Amsif.
Kader Amsif, du CNES, donc de l'Agence française... L'Agence spatiale française. Je suis responsable d'un thème qui s'appelle Soleil-Héliosphère-Magnétosphère, donc qui englobe toutes les missions autour du Soleil, principalement.
À votre côté, donc, Milan Maksimovic.
Donc, enchanté, bonsoir. Donc, moi, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Observatoire de Paris à Meudon. Il y a deux sites pour l'Observatoire de Paris. Il y en a même trois avec Nancy. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LESIA, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Et je suis là aujourd'hui, ce soir, parce qu'en fait, je suis responsable d'un des 10 instruments sur Solar Orbiter, l'instrument RPW, on en reparlera. Donc, instrument soutenu par le CNES et par CADER, qui nous soutient pour cet instrument à tous les points de vue.
Très bien, donc un responsable de programme et puis un scientifique hein, juste à côté. Alors est-ce qu'on peut commencer par dire à quel point on est peut-être à l'état de l'art avec Solar Orbiter? À l'état de l'art, ça veut dire qu'on est vraiment au maximum des capacités techniques de ce qu'on sait faire aujourd'hui quand on veut aller étudier le Soleil?
À l'état de l'art, pourquoi? Parce que l'environnement autour du Soleil est très... on le sait, il fait très chaud, donc il faut... résister à des températures extrêmement élevées, on dit qu'elles peuvent dépasser les 1400 degrés. Il faut envoyer des instruments là-bas qui puissent faire des mesures et nous les envoyer sur Terre. Il y a le niveau de radiation qui est très élevé, le champ magnétique est extrêmement élevé. Donc tout ça fait qu'on construit des instruments à la pointe de la technologie qui doivent durer longtemps dans un espace qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on sait qu'il est très... très corrosif, très, très agressif. Ça fait des instruments qui sont uniques. La preuve, c'est qu'on met beaucoup d'années pour les réaliser, pour les spécifier. Et après, une fois en l'air, des fois ça marche tellement bien qu'ils durent extrêmement longtemps, qu'ils dépassent leur durée de vie. Donc c'est des choses qu'on fait une fois presque dans la vie d'un scientifique. C'est 15 ans de spécification, puis 15 ans de réalisation, puis 15 ans d'exploitation. Donc ça peut faire une vie.
On dit souvent que c'est 10 ans pour mettre en œuvre un instrument. Alors, si vous avez entendu une petite note de piano, c'est Xavier Ferrand qui est avec nous ce soir, bien sûr, qui nous accompagne à chaque fois pour faire des introductions, réagir en musique à chaque fois. Comment vas-tu, Xavier?
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifiés dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude dans un monde glacé de solitude. savoir si quelque part il y a l'espoir de percer du soleil les mystères. Écoutons les révélations de Milan et Kader. Laissons entrer le soleil. Laissons. Let the sunshine. Let the sunshine in. Let the sunshine in. Merci.
Alors on a effectivement laissé entrer le soleil, hein, en tout cas la chaleur du soleil est bien présente. Mais voilà, on est. Alors Milan Maximovic, vous aviez envie de répondre à la question aussi. L'état de l'art, c'est notre question.
L'état de l'art, donc juste quelques précisions donc un peu scientifiques sur les objectifs scientifiques de la mission. Là effectivement Kader a adressé...
On va parler des objectifs, mais oui, ma question c'est l'état de l'art. Est-ce que vraiment on est au maximum de ce qu'on peut faire en matière de technique avec Solar Orbiter?
Alors, je dirais qu'on est dans l'état de l'art par rapport au concept même de la mission. C'est une mission qui veut observer le Soleil, ce qui se passe à sa surface et dans sa couronne. On y reviendra probablement, notamment les fameuses éruptions, qui envoient du rayonnement, des particules, du plasma un peu partout dans le système solaire, et notamment vers la sonde elle-même. Donc c'est une mission qui veut imager la couronne du Soleil avec le plus de précision et de résolution spatiale possible, et qui ensuite va récupérer le plasma produit lors de ces événements. Alors pourquoi c'est de l'état de l'art? Parce que un tiers d'unité astronomique, c'est une mission qui s'est déjà rapprochée à un tiers d'unité astronomique, c'est-à-dire distance Terre-Soleil du Soleil, c'est un peu la limite qu'on a actuellement si on veut avoir des télescopes, parce que il y a un paradoxe qui est qu'on veut se rapprocher du Soleil pour voir de l'imagerie, faire de l'imagerie avec haute résolution, donc on veut voir les détails. Mais le souci qu'on a, c'est que si on se rapproche trop, il y a trop de lumière qui rentre dans le télescope, et du coup, ça va chauffer l'intérieur du satellite, on y reviendra. Donc on verra que la sonde a un bouclier pour se protéger, mais il y a quand même des trous dans le bouclier pour faire entrer les photons, donc on peut se rapprocher un peu, mais pas trop, pour que la lumière rentre. Et donc du coup, c'est l'état de l'art dans ce cadre-là, dans le cadre de l'imagerie du Soleil. On ne sait pas aller plus près, technologiquement parlant. C'est un compromis entre l'ouverture des instruments qui font de l'imagerie et puis la chaleur qui va être rentrée dans le satellite de toute façon.
Alors on va regarder ensemble à quoi ressemble ce satellite. Hein. Mais juste avant ça, vous avez dit qu'on était à un tiers d'unité astronomique. Alors il faut comprendre que donc, le Soleil se situe à 150 millions de kilomètres de la Terre, et que là on est à 50 millions, à 45 millions hein, de kilomètres de la Terre, du Soleil, pardon. Donc on a franchi les deux tiers de la distance, mais on en est quand même loin encore. On ne peut pas se rapprocher plus que 45 millions de kilomètres.
Alors on peut se rapprocher, il y a une sonde qui,
mais on brûle, d'accord,
qui l'a déjà fait, mais si on a un bouclier qui est adéquat, et on verra, il y a une image de cette sonde qui s'appelle Parker Solar Probe. C'est une sonde de la NASA, c'est un peu la cousine ou la grande sœur, comme on veut, de Solar Orbiter. On peut se rapprocher jusqu'à une dizaine de rayons solaires. Juste une image pour se fixer un peu les idées sur le Soleil, le système solaire. Vous connaissez probablement à la Villette la géode, qui fait une trentaine de mètres, 36 mètres, je crois. Le Soleil, c'est un planisphère. La Terre, c'est un planisphère.
Un planisphère, c'est quoi? C'est une.
Le globe
qu'on a chez soi.
Le planisphère que vous avez chez vous qui éclaire la nuit avec cette petite lumière bleue. Vous prenez le planisphère, vous le mettez grosso modo à 3,5 km de la géode, vous avez la Terre et le Soleil.
La géode, c'est la géode de la Villette, hein, on est d'accord.
La géode de la Villette. Donc la Terre et le Soleil ont un diamètre qui est 110 fois le diamètre de la Terre. Donc le Soleil est beaucoup plus grand. Kader donnait l'exemple d'une personne et puis d'un bout d'ongle.
Donc la Terre, c'est l'ongle et la personne,
c'est le Soleil.
C'est la taille du Soleil, d'accord.
Et donc ça, c'est 150 millions de kilomètres, la distance Terre-Soleil. Et un tiers de 150 millions de kilomètres, c'est 50 millions de kilomètres.
Alors regardons notre diaporama ensemble. Donc la première image, hein, c'est l'image de Solar Orbiter. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors effectivement, on voit le Soleil à droite, on voit cette espèce de plaque de forme carrée. C'est ça le bouclier, n'est-ce pas?
Oui, oui, tout à fait. C'est le bouclier thermique qui pointe d'ailleurs vers le soleil, parce qu'il faut un système de pointage très précis. Parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que près du soleil, la densité des particules est plus faible. Donc quand il y a un photon qui est présent, ça fait une température extrêmement élevée. Ça peut faire du 800, du 900 degrés. Par Carcel approche, ça peut faire 1400 degrés. Et dans l'ombre, il n'y a plus de photons, donc la température chute. Donc c'est ce qui fait l'objectif de ce bouclier, c'est vraiment de protéger tous les instruments qui sont derrière. Il y a les instruments, peut-être Milan vous en parlera mieux que moi, il y a les instruments in situ qui vont mesurer les paramètres autour du satellite. Mais dans le bouclier, il y a des petites fenêtres qui permettent aux instruments qu'on appelle de télédétection, remote sensing, qui permettent de voir, c'est des télescopes, hein. Qui permettent, il y a des petites, comme des petites fenêtres qui s'ouvrent, ils regardent, ils filment, et puis ils ferment, ils protègent les instruments. Et c'est que comme ça que, tout à l'heure sur la question c'est l'état de l'art, il y a 40-50 ans, on n'aurait pas pu faire cette mission. Donc c'est vraiment des choses aujourd'hui à la pointe de la technologie, on ne sait pas faire mieux, et c'est pour ça que ça vole et que ça marche.
Et que ça marche, effectivement, c'est le cas. Ça a été testé, effectivement, en vraie grandeur. Alors, on voit aussi, évidemment, les panneaux solaires. Et ils n'ont pas besoin d'être très grands, là, je suppose, parce qu'on est tout près du soleil, on a beaucoup de lumière qui arrive.
Alors, effectivement, les panneaux solaires ne sont pas très, très grands. Juste pour les personnes qui ont des panneaux solaires chez eux, à l'orbite de la Terre, un mètre carré reçoit 1340 watts. Quand on se rapproche du soleil, ce nombre augmente comme l'inverse du carré de la distance. Donc si on se rapproche à un tiers, ça va faire un facteur 3, donc ça fait 9 fois plus. Et donc du coup, les panneaux solaires, ils n'ont pas besoin d'être grands parce qu'ils reçoivent suffisamment d'énergie, et même ils reçoivent trop d'énergie. Ils reçoivent trop d'énergie et du coup ils chauffent. Et un des soucis avec les panneaux solaires, c'est quand ils chauffent trop, leur rendement diminue. Et du coup, ces panneaux solaires, il y a un compromis, quand ils se rapprochent, ils sont inclinés. Ils ne font pas complètement face, ils sont inclinés de manière à ce que la surface visible soit moindre et qu'ils chauffent moins, tout en ayant suffisamment d'énergie. Et puis, donc, on voit le bouclier, Kader en a parlé, on voit ce qui dépasse les petits... c'est des petits fils, mais c'est des bâtons, on y reviendra.
Alors, lesquels? Ben non, on ne va pas y revenir, il faut en parler maintenant, là.
Ben, ce sont
donc,
les
c'est l'antenne qu'on voit vers le haut.
Les fameuses antennes de l'instrument RPW.
RPW, ça c'est RPW, donc l'antenne vers le haut, c'est RPW. L'antenne vers l'arrière, là,
l'antenne
vers la gauche.
Alors, ce n'est pas une antenne, c'est un mât instrumental.
C'est un mât instrumental.
Donc, c'est un bras replié au moment du lancement et qui se déploie, et qui lui aussi contient des instruments. Et puis, la dernière chose qu'on voit sur l'image, alors on ne voit pas très bien, il y a deux autres antennes RPW, mais on les verra peut-être sur un autre schéma. La dernière chose qu'on voit, c'est l'antenne de télédétection,
de télécommunication. Elle est en bas. Hein.
Donc celle-là, c'est en bas, qui sert à communiquer avec la Terre.
Avec la Terre.
Et ça, c'est plus la spécialité de Kader.
Alors comment ça se fait qu'elle est au bout d'un mât elle-même? Parce que souvent, quand on regardait... un certain nombre de missions, on a l'antenne de télécommunication vers la Terre qui est carrément sur le corps du satellite ou de la sonde, et là c'est au bout d'un bras.
Clairement, là la question est bonne, mais enfin, pour moi elle est surtout, elle doit être en visibilité de la Terre.
Voilà. C'est le principal, c'est le cas.
Là, on a le soleil en face, on peut penser que la Terre est de ce côté et on est en visibilité, c'est ça le plus important. Et de toute façon, c'est que quand on s'approche de la Terre qu'on peut aller envoyer les données via cette antenne.
Mais on peut quand même, ça c'est quand on est le plus proche de la Terre, on envoie beaucoup de données, mais on peut quand même suivre la sonde au cours de son périple. Et comme disait Kader, elle est en visibilité de la Terre, c'est-à-dire qu'en fonction de la position Terre, Soleil, sonde, ça peut par exemple, la sonde, le Soleil et la Terre peuvent faire 90 degrés. Et à ce moment-là, cette antenne... Vous voyez, là, on a l'impression que la Terre est dirigée vers la gauche, donc
absolument.
Elle est pointée vers la Terre. Cette antenne peut tourner sur cet axe-là. Donc elle va tourner et elle va communiquer avec la Terre beaucoup moins efficacement parce qu'on est loin, mais quand même, elle va communiquer avec la Terre. Donc là, une des raisons pour laquelle elle est sur le mât, c'est que pour qu'elle puisse communiquer également.
Alors, puisqu'on fait un petit portrait robot là de ce satellite, quelle est sa taille, quelle est sa masse, etc.
1800 kilos, la masse totale, pour 200 kilos de charge utile, d'instruments seulement.
Ah oui, 200 kilos de charge utile et 1800 kilos ouais, de...
Ça fait cher, hein, la charge utile. Mais effectivement, c'est un peu le ratio qu'on a sur les grandes missions. Mais voilà, il n'y a que 200 kilos d'instruments.
Je finis le bouclier, là, que vous voyez, là. Vous voyez qu'il n'est pas parfaitement carré, il est plutôt rectangulaire. Donc là, on voit le grand côté, là, plutôt. C'est à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà, donc la sonde, c'est en gros une espèce de boîte plus ou moins cubique. Qui doit faire aux alentours de 2 mètres de la taille d'une personne, plutôt d'un joueur de basket.
Vouloir prendre en main la couronne du roi, c'est risqué d'y laisser sa santé, et oui, car un homme a essayé, en défiant les lois physiques de son temps, il s'appelait Icare.
C'est vrai, Icare a voulu défier les lois, il a voulu attraper la couronne du soleil, et il s'est bruselé les ailes, exactement. Alors, bon, commençons par l'un de ces grands mystères là qu'on a annoncé en introduction, le mystère de la couronne, justement. Ben, on va rebondir sur ce que disait à l'instant même Xavier, le mystère de la couronne, donc surface du... Alors, intérieur du soleil, quelle température ?
Typiquement 15 millions de degrés.
15 millions de degrés, ok.
À l'intérieur du soleil.
À l'intérieur du soleil, très bien. Donc, le soleil est extrêmement gros, évidemment, et à la surface, il fait moins chaud. Il y a une dissipation.
Tout comme sur Terre, le noyau est beaucoup plus chaud que la surface. Et donc la surface du Soleil, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à peu près 5600 degrés.
Allez, 6000.
6000,
donc
allez.
On passe de 15 millions à 6000.
Voilà.
Bon. Et alors Quand je quitte la surface et que j'entre dans la couronne, elle est à quelle distance de la surface du Soleil ?
Alors, ce qui se passe, c'est que imaginez que vous prenez l'avion, vous allez aux États-Unis, l'altitude augmente, on a les écrans où on voit le trajet et tout, et puis il y avait dans le temps, maintenant moins, mais il y avait la température, il y avait une mesure de température. Et donc, on partait de 20 ou 30 degrés comme aujourd'hui. Et puis petit à petit la température décroît, et puis quand on est à 10 000 mètres, on est à moins 50, moins 60. Donc effectivement, il fait plus froid à la montagne. On aimerait bien tous être à la montagne en ce moment. Et ça, c'est une loi, disons, générale d'une atmosphère qu'on dit en équilibre hydrostatique. Donc en fait, c'est ce qui se passe pour le Soleil. Les premiers centaines, milliers de kilomètres, c'est ce qui se passe. La température décroît un peu, on arrive dans la fameuse chromosphère, qui est la région de l'atmosphère où se créent les raies spectroscopiques qui sont indicatives de la composition chimique. Et puis, aux alentours de 2000 mètres d'altitude, poum, il y a sur quelques centaines de kilomètres, la température monte brutalement et atteint 1 à 2 millions de Kelvin. Pour ce plasma, donc la couronne solaire.
Le Kelvin, on va dire des degrés. Hein.
Des degrés.
Et donc, on était à 6000 et on arrive à 1 million.
On arrive à 1 million.
1 million. Et à quelle distance alors ?
À 2000 km à peu près.
À 2000 km d'altitude, voilà. On est à 1 million de kilomètres, voilà. 1 million
alors,
de degrés.
Voilà. Alors, en moyenne, hein, parce qu'après, en fonction de où on se trouve sur la couronne, il y a les régions coronales, il y a les régions... La couronne est complexe, mais on arrive à 1 million.
Donc la couronne, c'est une sorte de sphère qui entoure le Soleil.
Voilà, la couronne, c'est l'atmosphère du Soleil. On la voit quand il y a une éclipse. Alors, la prochaine qui n'est pas loin d'ici...
Parce qu'il y en a une en 99, hein, dont on se souvient.
Il y en a eu en 99.
Quand
certains...
on avait l'âge de la voir.
Voilà, certains... Moi, je l'ai raté parce que j'étais à un endroit où il faisait mauvais.
Aïe.
Mais la prochaine, en Espagne, en 2026...
Ben voyons.
En août 2026, il y aura une éclipse totale dans le nord de l'Espagne.
Alors, il faut bien...
Kader pourra vous donner des bons plans.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc une éclipse, on a la lune qui passe devant le soleil, et la lune est justement de la taille qui permet de voir cette couronne. Donc, ce qu'on va voir, donc le soleil va être caché par la lune, et par hasard, la taille de la lune est telle que ça permet de voir cette couronne qui entoure le soleil.
Exactement. Si vous prenez un petit pois et que vous le mettez à 1 mètre de votre œil, et vous le mettez devant la pleine lune. Vous fermez un œil, vous visez, et bien vous verrez que le petit pois va occulter complètement la lune. Le petit pois n'a bien sûr pas la même taille que la lune, mais le rapport des distances, c'est le rapport des dimensions. Et bien, c'est la même chose entre la lune et le soleil. Donc les petits pois, la lune et le soleil sont intimement liés. Je ne vous conseille pas au passage de prendre un petit pois et de viser le soleil, parce qu'il ne faut jamais regarder le soleil à l'œil nu. On peut se brûler, il y a eu des accidents. Donc, quand la lune passe devant le soleil, elle cache le disque et elle fait apparaître la couronne.
La couronne. Donc, la couronne, elle entoure la surface du soleil à 2000 km d'altitude. Mystère. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est n'importe quoi. La couronne, 1 million de degrés. La surface, 6000 degrés. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ?
On a des théories sur le chauffage, le fameux chauffage de la couronne. C'est un vieux problème qui a été découvert à la fin du 19e siècle, qui a été complètement identifié dans les années 30. On a des idées. Le problème, c'est un peu un problème de riche, entre guillemets. C'est qu'il y a trop d'idées et de mécanismes.
Trop de théories possibles.
Il y a trop de théories possibles et on ne sait pas quelle est la bonne.
D'accord. Il y en a plusieurs bonnes, peut-être aussi, non ?
Il y en a peut-être plusieurs bonnes. Les physiciens aiment beaucoup la théorie unique qui explique tout. L'équation qui va expliquer l'univers, le monde, etc. Il se peut très bien que la nature est telle que la couronne est chauffée par plusieurs mécanismes.
Et là, attendez, c'est à la fin du 19e siècle qu'on a découvert ce paradoxe ?
Alors, ce qu'on a découvert à la fin du 19e siècle, c'est intéressant, c'est que donc, vous avez peut-être entendu parler de spectroscopie, qui est la science d'étude des gaz avec un système donc, de réseaux et de prismes et qui permet donc d'observer des raies dans les gaz. Et à chaque gaz, vous avez une raie ou une série de raies qui est associée.
Alors, est-ce qu'on peut dire que quand on prend la lumière du soleil,
ouais,
on va l'observer avec un télescope, on va découper cette lumière avec un prisme,
oui,
et on obtient une sorte d'image. Dans cette image, il y a des raies,
voilà,
et à chaque raie correspond certains éléments chimiques.
Voilà.
Donc vous savez s'il y a de l'hydrogène dans cette lumière qui vient du soleil, ce genre de choses-là.
Oui. Alors, donc c'est exactement
ça. Donc ça, c'est la spectroscopie. Donc ça permet, en regardant la lumière d'un objet, de savoir quelle est sa composition.
Voilà. Et donc il y a un dénommé Young qui a regardé, qui est un astronome amateur américain. Ils étaient deux, il y avait Harkness et Young, qui ont regardé et qui ont découvert une raie dans le vert, enfin dans la couleur verte, la raie coronale verte, qui à l'époque n'était pas connue sur Terre par rapport aux autres raies. Et ils pensaient avoir découvert un nouvel élément qui a été baptisé par je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus, le coronium.
Coronium, d'accord.
Donc le coronium a été pendant des années la solution à cette observation. Et quand je dis que le problème a été identifié dans les années 30, c'est dans les années 30 que la mécanique quantique, l'atomistique, qui étudie les niveaux dans les atomes, etc., et les transitions de niveau, et la formation des raies, c'est en faisant ces calculs-là et en introduisant la mécanique quantique qu'il y a des physiciens, il y en avait un qui était, je crois, suédois et l'autre, il était peut-être allemand, qui ont fait des calculs et qui se sont rendus compte, mais ils ont dit, mais la fameuse raie verte, c'est rien d'autre que la raie de l'élément fer ionisé 13 fois. Vous prenez un noyau de fer.
Ionisé 13 fois.
Voilà. Donc vous prenez un noyau de fer. Un noyau de fer a 70. Il a à peu près 70, 80 neutrons et protons. Et puis, il a la même quantité d'électrons pour être...
80 électrons environ.
Voilà. Vous en enlevez 13.
On enlève 13 électrons.
Voilà. Vous en enlevez 13.
Ça fait
vous
un ion avec 13... Avec ça 13, fait du fer avec 13, 13
plus.
Petits plus.
Voilà. Chargé 13 fois. Eh bien, le fer 13 plus produit la fameuse verte du coronium. Et donc, du coup, comment produire du fer 13 ?
13 plus. Un ion auquel on a... Comment arracher 13 électrons au fer ?
Alors, pour faire un plasma, pour arracher des
électrons... Le plasma, il faut expliquer. On a utilisé le mot, on n'a pas expliqué ce que c'était.
Alors,
un plasma, c'est du gaz.
Le plasma, c'est du gaz
Dans lequel il y a des ions, justement.
Dans lequel il y a des ions et des électrons. Le plasma le plus simple, c'est l'hydrogène. L'élément le plus simple dans l'univers, c'est l'hydrogène. Un proton et un électron qui tournent autour. Et donc, dans une pièce, vous mettez, si vous mettez de l'hydrogène pur, vous avez des atomes d'hydrogène. Si à un moment donné, on fait une décharge électrique, par exemple, les décharges électriques, pour ceux qui ont connu ça dans les salles de bain, quand il y avait les fameuses lampes à néon et qu'on appuyait et qu'on entendait un clic, 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 c'était des décharges électriques pour ioniser le néon et pour produire de la lumière. Donc, dans le néon, il y a un plasma. Donc, il y a des atomes de néon, des ions néons et puis des électrons.
Donc c'est dans du gaz chambre, qui est composé de
c'est les mêmes composants
auxquels on a enlevé
c'est les mêmes
des
composants
électrons.
Voilà, c'est les mêmes composants sauf que l'électron ne tourne plus autour de l'ion. Dans le cadre de l'hydrogène, on a des électrons qui se baladent où ils veulent dans cette pièce. Imaginons qu'on ait une pièce un gaz d'hydrogène ionisé et on aurait des protons et des électrons qui se baladent librement, une soupe de ces particules qui sont électriques. Et c'est ce qu'on appelle un plasma.
Alors vous nous faites languir. Comment est-ce qu'on arrache 13 électrons à l'atome de fer ?
Eh bien, pour faire du fer ionisé 13 fois, pour ioniser un plasma, il y a plusieurs techniques. Il y en a trois en gros. La première, c'est une décharge électrique. La deuxième, c'est d'exposer votre gaz à des rayons UV. Les rayons UV vont arracher les électrons et créer du plasma. La troisième, c'est des collisions. C'est-à-dire, vous prenez deux atomes de fer et vous les faites se collisionner l'un contre l'autre très vite, très fort. Et à ce moment-là, vous le ionisez.
Donc, ce n'était pas du coronium, c'était du fer ionisé 13 fois. Mais tout ça ne me dit pas comment est-ce qu'on fait le lien entre cette observation et le fait qu'on a compris qu'il faisait 1 million de degrés
Pour ioniser le fer 13 fois, il faut qu'en moyenne, les atomes de fer aient une certaine vitesse d'agitation thermique dans tout corps qui est à une température donnée. Les constituants ont des agitations, des mouvements browniens.
Donc il faut beaucoup de chaleur, c'est ça ?
Alors la chaleur, c'est l'énergie qu'ils emmagasinent. Il ne faut pas confondre chaleur et température.
D'accord.
C'est deux choses différentes, je pourrais en parler, mais c'est... La température, c'est la mesure, une mesure de la chaleur, mais la chaleur, c'est un échange d'énergie entre deux systèmes. Vous prenez un gaz, tout un gaz ou un fluide, il y a de l'agitation du mouvement brownien, de l'agitation thermique. Ça, c'est vrai pour tous les gaz. Si vous augmentez la température, vous augmentez la vitesse moyenne d'agitation. Pour avoir une telle ionisation, il faut des vitesses dans les collisions qui se font à une vitesse thermique qui est donnée. Et la vitesse thermique, c'est proportionnel à la racine carrée de la température.
Ah, mais attendez, vous nous faites un cours, là. Alors, attendez.
C'est proportionnel à la température. Donc, plus c'est chaud, plus
les... Voilà, on est arrivé. Est-ce qu'on peut avoir Tada, s'il te plaît, Xavier ? Voilà. Et quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Milan Maximovic. Voilà, il faut de la chaleur, on est d'accord.
Voilà.
Alors, il faut une haute température, en tout cas. Donc, c'est à partir de là, dans les années 30, qu'on a compris effectivement ce lien entre ce fer 13+.
Je profite de cette petite intervention musicale.
C'est un bon moment.
De ce petit tada pour rappeler à l'agenda que le soleil a rendez-vous avec la lune le 16 août 2026 dans le nord de l'Espagne. Et si vous avez en poche une petite fortune, Kader peut vous renseigner pour que tout le monde y gagne.
Merci Kader. Oui, il paraît que vous pouvez nous emmener, là. C'est quoi cette histoire, Kader Amsif ?
Ça, c'est Milan qui l'a dit. Moi,
D'accord. Non, c'était juste comme ça. C'était gratuit. D'accord. Bon,
bien.
Très bien. Voilà. Et donc, on a des observations, là. Allons au fait, Milan Maximovic, sur cette histoire de couronne, température. Est-ce qu'on a du nouveau ? Kader Amsif, donnez-nous un petit insight, là, sur ce qui se passe avec Solar Orbiter et ce mystère de la couronne.
En fait, le processus physique dont a parlé Milan, aujourd'hui, on l'a observé. Grâce aux observations, on a pu voir la couronne qui a une température de 1 million, 2 millions de degrés. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment quelque chose. La température est vraiment extrêmement élevée. Aujourd'hui, on a pu. C'est peut-être un sujet à controverse, mais les premières images de Solar Orbiter nous ont montré qu'il y avait une théorie, peut-être, qui sortait un peu du lot. Qui étaient les fameuses petites éruptions qu'on appelle les campfires, les feux de camp. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler plus tard.
On peut en parler maintenant, c'est un excellent moment. Les campfires, donc les feux de camp.
Les feux de camp.
D'accord.
En fait, c'est rigolo la physique, parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. En fait, c'est souvent ce que je dis sur les feux de camp. Solar Orbiter a été lancé le 10 février 2020, donc le 30 mai. On était toujours en recette en vol et la première image qu'on a vue, et on a vu effectivement des petits feux de camp, mais vraiment comme des feux de camp.
Donc c'est une vidéo, donc quand on regarde la vidéo, on voit effectivement ces petits feux s'allumer jaunâtre.
Exactement, ça apparaît, ça disparaît. Les dimensions sont impressionnantes parce qu'on a ici, là, vous voyez, un petit cercle qui montre la Terre à l'échelle. Ça peut aller de 400 km
donc à... Le petit rond en bas à gauche, c'est la Terre. Hein.
Exactement. Voilà. Et donc là, il y a une flèche qui indique voilà, typiquement ce que c'est un campfire. Donc c'est typiquement à l'œil nu, comme ça, quand on voit la vidéo, on a l'impression vraiment que c'est des feux de camp qui s'éteignent.
Des petits feux de camp qui apparaissent partout. Alors petit, évidemment, quand on compare la taille de la Terre, on dit que c'est pas plus si petit. Quoi.
Voilà, 400 km, 4000 km. On parlait de... qui pouvait avoir une durée de 20 secondes à 200 secondes, voilà, plus ou moins.
Et alors, il y a un lien entre ceci. Alors, ça avait été théorisé, Milan Maximovic, hein, on avait l'idée qu'on pouvait avoir des campfires, des petits feux comme ça.
Alors, effectivement, c'est la fameuse théorie de Parker des nano-éruptions.
Un Américain, Parker.
Un Américain, on en reparlera peut-être. Et en gros, pour faire simple, sur l'image, plus c'est blanc, plus ça veut dire que c'est chaud et dense. La couronne est chaude et dense. Il y a plus d'activité magnétique en dessous. Il faut dire que ça, c'est relié aux taches solaires. On reparlera des taches solaires. Mais en gros, c'est des régions où c'est des gros feux. Il y a une espèce de cheminée. C'est pas un feu de camp, mais une cheminée. Et puis, dans la théorie, donc ça, on sait que des zones éruptives comme ça sur le Soleil, il y en a quasiment en permanence. Et quand on regarde le Soleil comme ça, il y en a peut-être 20, 30, 50, une centaine. Les campfires ou les nano-éruptions, l'image que je donne parfois, c'est celle, vous pouvez chauffer une maison avec une cheminée et puis après, vous chauffez localement, mais pour chauffer la maison, c'est pas évident. Après, vous pouvez chauffer la maison en allumant au fur et à mesure, donc pendant un temps long, des allumettes. Si vous allumez 100 000 allumettes en 10 minutes, la durée de vie d'une allumette pour qu'elle brûle, c'est quelques secondes, 10 secondes. La chaleur dégagée, elle est toute petite. Mais si vous en avez 100 000 et que vous les allumez au fur et à mesure, vous finirez par chauffer votre maison.
Donc les campfires pourraient être la raison pour laquelle...
Les campfires pourraient être l'équivalent, dans mon image, des petites allumettes. Il y en aurait des milliers, des millions, il y en aurait beaucoup. Et il y en aurait un peu partout à la surface du Soleil, pas seulement localisé dans les éruptions, un peu partout, et qui pourraient être donc des chauffages locaux et très nombreux un peu partout. Et donc ça, c'est une des théories possibles. Pour être précis et vraiment précis, c'est pas des nano-éruptions qu'on voit, mais c'est plutôt des micro-éruptions. L'idéal, ça serait de voir, alors pour l'instant, c'est pas encore le cas. L'instrument s'est déjà rapproché, mais il faut encore continuer à analyser les données, voir si éventuellement on verrait des événements encore plus petits. Mais là, l'idée maintenant, c'est de faire du traitement d'image pour essayer de faire ressortir des événements encore plus petits.
Ah, plus petits que les campfires.
Plus petits que les campfires.
Il y aurait des productions de chaleur, voilà, plus petites que ça. Hein.
Voilà.
Parce que alors, les campfires... Est-ce qu'on est bien d'accord ? Mme Maximovic, on se pose la question, pourquoi est-ce que la couronne est plus chaude ? Est-ce que ces campfires peuvent être une réponse à cette question?
C'est une réponse plausible.
D'accord.
Ça avait été théorisé.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on tombe dessus quand même.
Et on tombe dessus.
Et c'est la première fois qu'on les voit, on est d'accord?
Alors, on les avait pas... De cette manière-là, oui. Avec autant de détails et avec la possibilité d'en faire une statistique, comme Kader l'a dit. Il y a un papier qui est sorti assez rapidement qui donne les tailles moyennes des campfires, leur durée de vie et leur nombre, et surtout ce qui est intéressant dans cette physique là c'est leur distribution. Alors quand je dis distribution, c'est le nombre en fonction de leur intensité. Si vous prenez sur Terre les tremblements de terre, que vous mesurez tous les tremblements de terre sur Terre en fonction de leur magnitude, donc vous tracez dans l'axe horizontal la magnitude des tremblements de terre, dans l'axe vertical le nombre, vous allez avoir un ou deux tremblements de terre de magnitude 7, 8, enfin c'est les gros qui sont bien costauds. Mais au fur et à mesure que vous allez dans les magnitudes faibles, vous en avez de plus en plus. Et quand on arrive aux magnitudes 4, 5, qu'on ne sent plus sur nous-mêmes et que les sismomètres sentent, il y en a des dizaines de milliers. Chaque jour, il y a des centaines, des milliers de tremblements de terre quelque part sur le globe qu'on ne détecte pas, mais qui sont là. Et le nombre, la distribution en magnitude est importante. Et donc, dans l'histoire des campfires, il y aurait suffisamment de campfires si la distribution est relativement, non pas plate, mais un peu pentue.
Et ça, on l'ignore encore.
On va voir que si la distribution est...
On doit faire de la statistique, c'est
ça ? On fait de la statistique. Donc, on fait la statistique. Les campfires sont très intéressants parce qu'ils rajoutent des points dans la statistique et permettent, en extrapolant, de voir s'il va y avoir suffisamment de nano-éruptions. Donc, si vous avez suffisamment de micro-éruptions, vous avez de fortes chances d'avoir suffisamment de nano-éruptions.
Alors, vous savez, au Mardi de l'espace, à un moment donné, je vous passe le micro, parce que si vous avez envie de discuter directement avec Kader Amsif ou avec Milan Maksimovic, bah, l'un des moments se présente juste maintenant. Ensuite, il y en aura d'autres. Et même, je peux m'interrompre à tout moment pour vous passer le micro. Donc, n'hésitez pas, monsieur.
Une question concernant la mission et la trajectoire. Quand j'entends Solar Orbiter, pour moi, j'entends une orbite. Quelle est la trajectoire prévue de votre engin ?
C'est une trajectoire elliptique autour du Soleil, avec le point le plus proche qu'on appelle le périhélie, qui est situé à 42 millions de kilomètres. Pour se donner une idée, moi je donne souvent l'orbite, en exemple, je donne l'orbite de Mercure, qui est à 60 millions, c'est la planète la plus proche du Soleil, elle se trouve à 60 millions de kilomètres. Donc on va être à l'intérieur de cette orbite-là, et elle va tourner, et on fait des assistances gravitationnelles, alors ce qui va être top, j'aime bien dire ça. C'est que on fait des assistances gravitationnelles autour de Vénus quand on s'approche. On peut accélérer comme ça les centres, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Mais Solar Orbiter va profiter d'une assistance gravitationnelle pour sortir du plan de l'écliptique, c'est là où il y a toutes les planètes du système solaire, et aller scruter le Soleil vraiment depuis les pôles. Donc on va pouvoir, et ça va être une première. Ça n'a jamais été vu. Déjà, on a quelques images qui nous ont montré des choses. Enfin, je vous invite à aller voir les vidéos du pôle sud imagé par Solar Orbiter. C'est vraiment impressionnant. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et je suis sûr que les scientifiques qui sont à côté vont apprécier, parce qu'il y aura de la science pendant des années et des années.
Alors, il faut bien se faire comprendre, parce qu'on a utilisé des mots complexes, comme le mot « assistance gravitationnelle ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, pour aller jusqu'au Soleil, jusqu'à l'endroit où s'est mis en orbite, hein, autour du Soleil, il a fallu utiliser de l'assistance gravitationnelle. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? C'est-à-dire que mon lanceur, c'était Ariane 5. Non, c'était pas Ariane qui a...
Non,
c'était un Américain. Hein,
oui.
Qui
oui.
Était quoi, un Atlas ou un chouette ?
C'était Atlas, ouais.
Un Atlas, c'est ça. Donc, un lanceur Atlas qui a lancé notre sonde. Et puis, on peut pas aller directement au Soleil, il faut... utiliser
l'effet de fronde.
Ce qu'on appelle l'effet de fronde. Donc, on va survoler certaines planètes, comme Vénus, par exemple.
En fait, on va profiter de s'approcher de la planète pour profiter d'une assistance gravitationnelle. Ça va être un petit push.
On va être accéléré.
Accéléré de vitesse. Il faut savoir que quand on est lancé de la Terre, on a une vitesse qui est imposée, c'est celle de la Terre. On ne peut pas aller plus vite. Si on veut s'approcher, viser... notamment viser des endroits, parce que l'idée de Solar Orbiter, c'est d'approcher le périhélie le plus proche du Soleil. Donc, on corrige un peu la trajectoire et on accélère.
On vise l'endroit le plus proche possible du Soleil. Nous, c'est 45 millions de kilomètres.
42 même.
42, d'accord.
Voilà, 42, si on veut. Donc, on profite de cette assistance pour accélérer et s'approcher, et puis éventuellement... modifier l'angle de la trajectoire, donc l'angle d'incidence.
Voilà, c'est ça. Donc nous, on a profité de plusieurs assistances gravitationnelles comme ça pour nous rendre sur notre orbite qui passe au plus près du Soleil à 42 millions de kilomètres. Et au plus loin, on est à combien ?
130 millions.
À 130, voilà. Donc notre orbite, elle passe à 42 millions au plus près du Soleil et puis elle s'éloigne, on va jusqu'à 130 millions de kilomètres. Donc on se rapproche, voilà. Et puis on revient, on fait des ellipses comme ça.
C'est vraiment elliptique, voilà.
Une orbite très elliptique, très allongée, hein, c'est ça que ça veut dire.
Okay. Exactement.
Et puis alors là, il y a une nouvelle, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une nouvelle assistance gravitationnelle qu'on va utiliser à un moment donné, et ce sera là vraiment une première, c'est qu'on va sortir du plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel se trouvent toutes les étoiles, toutes les planètes autour du Soleil. Elles sont toutes dans le même plan, elles tournent toutes dans un même disque, hein, si je puis dire. Et là, on va quitter ce disque et on va aller du coup au-dessus des pôles du Soleil.
Jusqu'à une latitude de 30 degrés, 33 degrés si pour si mais.
Donc on n'est pas exactement au-dessus des pôles, on est à 30 degrés
loin,
au-dessus des pôles.
Voilà, ouais, on commence à voir quelque chose qui vraiment se dirige vers les pôles.
Et là, ça veut dire qu'il se passe au-dessus des pôles, Milan Maximovic, des choses qu'on ignore et des choses nouvelles. Attention, dans votre réponse, vous n'avez pas le droit de donner d'équation.
D'accord.
C'est un objectif pour vous.
Très bien. Alors, pourquoi c'est très intéressant de faire de l'imagerie des pôles, qui est effectivement une première. On n'a pas d'image des pôles du Soleil. Eh bien, c'est important pour la sismologie, ce qu'on appelle la sismologie solaire, entre autres. Mais un des gros objectifs scientifiques, c'est la sismologie solaire. C'est quoi la sismologie solaire? C'est comme sur Terre, vous avez des sismomètres. Et quand il y a des tremblements de terre sur Terre, si vous mettez des sismomètres partout, vous avez les ondes sismiques qui se baladent, qui vont rentrer dans le manteau, qui vont être réfléchies par le noyau, qui vont revenir, etc. On peut ausculter, comme un docteur qui ausculte son patient avec un stéthoscope, on peut ausculter la Terre grâce à tout un tas de sismomètres autour de la Terre. Et on peut savoir comment, de quoi la Terre est constituée et quelle est sa structure. Dans le cas du Soleil, on ne peut pas mettre des sismomètres sur le Soleil. Par contre, on peut regarder le Soleil vibrer. Et le Soleil vibre. Il a des petits mouvements de vibration. Il a des modes de vibration. Donc, il n'est pas complètement. C'est pas une sphère qui a un rayon qui est parfaitement figé. Ça respire. Et on a jusqu'à présent. On fait ces observations par imagerie. On fait de l'imagerie. On fait ce qu'on appelle l'imagerie Doppler. Un peu comme un Doppler qu'on utilise en médecine. Jusqu'à présent, on a fait le Doppler que des régions équatoriales. Pourquoi ? Parce qu'on avait des imageurs qui étaient à l'orbite de la Terre ou un peu plus loin, mais qui étaient dans le plan de l'écliptique. On n'a jamais fait le Doppler, entre guillemets, donc, par imagerie du Soleil, par les pôles. Et on n'a pas une image Doppler, donc du coup, de l'ensemble de la surface. On a une image Doppler des régions équatoriales, mais pas des pôles. Et faire l'image Doppler des pôles, ça va être important pour comprendre vraiment la constitution du noyau, de comment les différentes couches à l'intérieur du Soleil sont agencées. Et notamment, c'est important pour savoir comment le champ magnétique du Soleil est créé à l'intérieur du Soleil, la fameuse dynamo solaire.
Donc parce que c'est comme sur la Terre, je suppose, on a des boucles magnétiques qui partent des pôles et qui reviennent à l'autre pôle. Hein.
Tout à fait. On a le Soleil produit son champ magnétique par effet dynamo. Alors un effet dynamo, c'est quoi ? C'est quand vous avez sur votre vélo, vous faites tourner votre roue et qu'il y a un aimant avec des fils électriques qui sont autour. Si vous faites tourner un aimant peut produire un courant. Inversement, un courant électrique peut produire un champ magnétique. Donc les deux sont liés. C'est les fameuses. Je donnerai pas l'équation, mais je dirai le nom. Les équations de Maxwell. Et dans le cas hydrodynamique, les équations de la MHD, magnéto-hydrodynamique. Et donc, ce champ magnétique est très important parce qu'il gouverne beaucoup toute la physique de la couronne. Et quand il sort le champ magnétique de la Terre, du Soleil, pardon, il se manifeste par, quand une boucle de champ magnétique sort, elle se manifeste par le fait qu'au niveau des pieds de ces lignes de champ, il y a des taches noires qui apparaissent. C'est les fameuses taches solaires. Page 11, sur la surface du Soleil, vous avez en haut à gauche sunspot.
Sunspot, voilà.
En anglais, gauche, tache solaire.
Donc ce serait à la surface du Soleil. Ah oui, il y a une petite flèche.
Voilà, une petite flèche. C'est un zoom de ce qui se passe à la surface du Soleil.
Voilà, et on voit une espèce de petite tache noire.
Et on voit
ça, c'est un endroit où il y a des
où le champ magnétique sort.
Le champ magnétique est en train de
localement
sortir. Voilà, localement.
Il est très intense.
D'accord.
Et plus il y a de taches, plus l'activité magnétique est importante.
Alors, on va avoir une autre question.
Non, moi, la question que je me posais, mais elle a été à peu près répondue, c'était l'angle de l'orbite solaire, parce que si c'est pour voir le pôle, si on est seulement à 30 degrés, on le voit quand même de façon très, très oblique. Alors, c'est pour ça que ça m'étonnait. Et est-ce que l'orbite en question est destinée à rester, ou est-ce qu'on envisage de refaire un peu d'assistance gravitationnelle en faisant un tour de manège avec soit Mercure, soit Vénus, pour changer éventuellement d'orbite?
Alors, pour les tours de manège, je vais laisser Kader répondre. Je ne sais plus exactement Il y a une limite en angle, mais je ne sais, je me rappelle plus exactement
de. Là-dessus, ouais.
Mais après, je peux dire juste pour l'histoire, 30 degrés, ça semble pas beaucoup.
C'est vrai. Enfin, ça semble beaucoup justement. C'est un peu oblique quand même.
Enfin, c'est oblique, mais c'est pas 90 degrés.
Ah oui.
Mais c'est suffisant.
Alors, c'est 30 degrés par rapport.
Alors, c'est 30 degrés par rapport au plan de l'écliptique.
Par rapport.
Après, il faut aussi regarder par rapport au plan de l'équateur du Soleil, qui lui n'est pas exactement dans le plan de l'écliptique.
Ah d'accord.
Donc, on montrait aux alentours de 40 degrés. Alors 40 degrés, c'est pas 90 degrés.
Ah bah non, on en est même loin.
Mais néanmoins, 40 degrés, comme il y a un effet, alors là, je suis obligé de prononcer le nom, il y a un effet de cosinus.
Le cosinus.
Le cosinus de l'angle. Donc c'est plus le cosinus de l'angle que l'angle lui-même. Et le cosinus de 40 degrés, c'est déjà. C'est 1,5. C'est pas loin d'un demi. 45 degrés, le cosinus, c'est 1,5.
Bon, on est pas mal alors.
Donc,
alors Kader Hamsif. Un mot sur cette... Est-ce que vous prévoyez d'autres assistances gravitationnelles pour vraiment passer au-dessus du pôle?
Non, mais au fait, le résultat final, c'est 33 degrés. On va y aller petit à petit. C'est pas... En 2025, on fait une assistance gravitationnelle. On va y aller petit à petit pour augmenter cet angle d'incidence. 33 degrés, c'est le maximum qu'on fera avec Solar Orbiter. Mais, vu les instruments qu'on a et tout ça, ça sera... De toute façon, une première. Les images qu'on obtiendra, les observations, les mesures qu'on fera, ça sera de toute façon une première mondiale.
D'autres interventions, je vous en prie.
Je voulais savoir si à terme, ça n'était pas d'essayer d'anticiper les éruptions solaires brutales qui pourraient intervenir et qui pourraient provoquer des dégâts très importants au niveau des satellites. Enfin, quel est le but enfin, final, si ce n'est la connaissance, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'anticiper quelque chose de cet ordre-là?
Alors la question est judicieuse, c'est une très bonne question. Effectivement, si on regarde au-delà de la connaissance, quelles sont les retombées, disons, sociétales ou pratiques de la mission, c'est effectivement dans ces prédictions. Les éruptions solaires ont pas mal d'effets sur, alors pas sur nous directement, on est protégé par notre atmosphère, notre champ magnétique, mais il y a des impacts sur notre technologie. Par exemple, quand il y a une grosse éruption solaire, l'éruption produit énormément de rayons UV. Les rayons UV vont taper l'atmosphère de la Terre. Elles vont chauffer cette atmosphère à très haute altitude. En chauffant l'atmosphère va être plus épaisse. Et elle va freiner, une atmosphère plus épaisse va créer une traînée plus importante pour des satellites en orbite basse. Comme par exemple les satellites de positionnement. Là.
Il y a eu un exemple concret, Starlink, voilà, ils en ont perdu 40 d'un coup parce qu'il y a eu cet effet-là, ça a frotté et ils ont été complètement brûlés dans l'orbite terrestre.
Donc les satellites Starlink, alors c'est très gênant pour Elon Musk, c'est gênant aussi pour les gens qui utilisent Starlink pour communiquer pour Internet. Mais il y a aussi les satellites qui sont utilisés pour se positionner. Le GPS. Les satellites GPS peuvent aussi être perturbés par des éruptions solaires. Donc il y a ces phénomènes-là. Il y a d'autres phénomènes, il y en a tout un tas. Mais il y en a un autre également qui est important et qui pourrait être important pour un jour, si on veut aller sur Mars. C'est les éruptions solaires qui produisent des particules très énergétiques. Donc... des particules très énergétiques, c'est la même chose que quand si vous aviez été à l'époque à Fukushima ou à Tchernobyl, eh bien rentrer près du réacteur, vous avez des rayonnements ionisants. Donc c'est des particules très énergétiques. Dans le cas du Soleil, le Soleil c'est un très gros accélérateur de particules. Dans toutes ces éruptions, il y a des particules, des faisceaux de particules qui sont injectés dans le milieu interplanétaire qui peuvent atteindre quasiment presque 0,99 à la vitesse de la lumière, donc ils sont très énergétiques. Et pour les très grosses éruptions, comme dans le cas des très grands tremblements de terre sur Terre, les très grosses éruptions, il y en a une par siècle, et grosso modo, et puis il y a eu une fameuse éruption qui était l'événement de Carrington, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'événement de Carrington, 1850 ou quelque chose comme ça.
1859.
Voilà, et bien l'événement de Carrington, il y a eu des calculs qui ont été faits a posteriori. L'événement de Carrington, s'il y avait eu à l'époque sur la Lune des cosmonautes qui exploraient la Lune, s'ils avaient été tapés par le faisceau de particules créé par l'éruption de Carrington, c'était équivalent à ce que les fossoyeurs, les fameux fossoyeurs de Tchernobyl, ceux qui ont été les nettoyeurs là, qui nettoyaient, qui pouvaient rester qu'une quinzaine de secondes ou une vingtaine de secondes sur le toit de Tchernobyl, ils avaient une dose tellement importante qu'au-delà de cette dose-là. Donc là, dans le cas des cosmonautes, ça aurait pu être fatal. Et a posteriori, on s'est rendu compte que les gens qui ont été sur la Lune auraient pu être exposés. À l'époque, c'est une science qu'on ne connaissait pas encore suffisamment. Et pour répondre à votre question, il y a des gens, des collègues qui travaillent sur la prédiction. Essayer de prédire, de regarder, de suivre, à commencer par les taches solaires. On suit une tache solaire sur le Soleil, on la repère, on dit cette tache solaire peut être dangereuse. Ensuite, on regarde à toutes les longueurs d'onde, on regarde comment évolue la région active. Et on essaye, en fonction de l'évolution de la région active, d'essayer de prédire si cette région active va devenir une très grosse éruption, une éruption moyenne ou une petite éruption.
Alors l'événement de Carrington, moi j'ai lu, il y avait une étude de la National Academy of Sciences, donc voilà, l'Académie des sciences américaines, qui avait indiqué que si on avait eu une éruption comme celle de Carrington aujourd'hui, et dans la direction de la Terre hein, aussi, parce qu'il ne s'agit pas juste que l'éruption, ça ne se produit pas dans toutes les directions, hein. Il faut que la Terre soit dans le faisceau et reçoive effectivement les particules, eh bien, on aurait pu avoir des dégâts équivalents à 2000 milliards de dollars, voilà, et que le temps de récupération après une telle catastrophe serait de 4 à 10 ans.
Non, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps quelque chose là-dessus. Ils appelaient ça aussi l'apocalypse d'Internet. On serait. Bon, les catastrophes, dit comme ça, c'est pas grand-chose aujourd'hui, mais il y a tellement de choses qui dépendent d'Internet, des nouvelles technos, que bien sûr, ça serait catastrophique pour la race humaine. On pourrait revenir à 50 ans en arrière. Donc, c'est effectivement pas négligeable. Et d'ailleurs. On n'est pas tous logés à la même enseigne, si je peux dire, parce que il faut voir, c'est les pays qui sont à haute latitude qui sont le plus à même de recevoir ces particules dangereuses. Les États-Unis, l'Angleterre, les pays nordiques. Et à ce titre, ils ont développé carrément un centre opérationnel comme nous, on a pour le climat Météo France. Eux, ils ont la NOAA pour la météorologie. On appelle ça l'enjeu sociétal, c'est la météorologie de l'espace. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, ils ont des centres opérationnels qui surveillent 24 heures sur 24 le soleil, qui arrivent à prédire sur un petit laps de temps, hein, je parle en quelques heures, hein, ce que disait Milan, c'est des prédictions à des jours. Ça, c'est vraiment des modèles très compliqués. On n'y arrive pas encore. On commence à avoir des prémices de ces choses-là. Mais par contre, les centres opérationnels aux États-Unis ou en Angleterre, ils sont là 24 heures sur 24 pour agir si jamais il y a une éruption qui vient vers la Terre. Pour prendre des dispositions, arrêter des choses.
Alors, on a combien de temps là? On voit une éruption se produire, on a combien de temps pour réagir? Il met combien de temps à arriver sur Terre?
Alors, l'éruption, c'est effectivement une très bonne question. Il y a plusieurs sous-produits. Vous avez une éruption, la première chose qui arrive, c'est la lumière. Les photons, 8 minutes, 300 000 km par seconde. Donc, les photons en lumière blanche, en UV surtout. Ensuite, viennent les particules énergétiques. Donc, si les particules énergétiques ont une vitesse proche de celle de la lumière, c'est pareil, à peu près 8 minutes. Alors, c'est un peu plus long parce qu'elles spirale le long du champ magnétique. Si elles ont une vitesse qui est moindre, la moitié, bah, ça peut être plusieurs dizaines de minutes. Mais en gros, c'est moins d'une heure, les particules énergétiques. Et ensuite, souvent, il y a une éjection coronale de masse ou éjection de masse coronale, ça. Donc c'est du plasma qui est émis en même temps localement. Donc c'est du vent solaire qui est plus dense. C'est, pour faire simple, une bourrasque de vent solaire. Et cette bourrasque de vent solaire...
Le vent solaire, c'est sur des particules. Hein.
Alors le vent solaire, on n'en a pas parlé.
D'accord, on va pas redonner la définition. Juste pour continuer votre idée.
Le vent solaire, c'est la couronne qui s'évapore.
D'accord. Voilà.
Et donc le vent solaire moyen, il a une vitesse de 400 à 800 km par seconde. 400 km par seconde, c'est intéressant. Si vous faites le calcul avec les 150 millions de kilomètres, ça met 4 jours pour arriver à la Terre. Il y a parfois des éruptions qui vont à 2000, 2500 km, donc 5 fois plus. Donc ça met un peu moins d'une journée. Donc vous avez la lumière, quelques minutes, les particules énergétiques, moins d'une heure, et puis le plasma qui vient taper la Terre, créer des aurores boréales un jour après.
Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'entends comme une musique un peu angoissante, là. Vous réussissez à nous faire peur. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour... Je vous en prie. Alors, la question va peut-être être super sympa, donc on va changer de musique. Hein.
Merci. Donc, on parle du soleil, etc., de ces variations de température un peu folles. Est-ce que, bah justement, étudier le soleil, etc., est-ce que ça reviendra au même que d'étudier une autre étoile dans la galaxie, où il y a chaque étoile a sa propre variation de température, certes, mais ses phénomènes, la couronne, etc.
C'est une très bonne question. Il y a plein d'étoiles dans le ciel. Tout ce qu'on voit dans le ciel, à part les planètes, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est des étoiles de notre galaxie. Toutes ces étoiles ont suffisamment de masse pour être suffisamment chaudes pour produire de la fusion nucléaire. Et il y a plein de types d'étoiles. Et en fait, on peut tracer la vie d'une étoile entre sa naissance, sa vie et sa mort. Et elle fait un cycle qui passe par la famille des géantes rouges, donc Antares, Bételgeuse, pour ceux qui regardent le ciel, Bételgeuse dans la constellation d'Orion. C'est fait.
Donc le soleil va enfler énormément.
Donc le soleil va enfler.
C'est dans 5 milliards d'années environ.
Voilà. Donc la température, vous voyez qu'elle va diminuer, sa luminosité va augmenter, et puis le soleil va à un moment donné s'arrêter de grossir. Alors, entre aujourd'hui et le moment où sera le plus gros, nous aurons disparu quoi qu'il arrive. Bon, pour les gens qui sont vraiment optimistes, nous aurons disparu. Pour les pessimistes, on se sera déjà auto-détruit. Mais bon, les gens font comme ils veulent. Mais enfin, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. Mais en tout cas, c'est clair que le Soleil aura un diamètre qui va être en gros qui va atteindre la surface du Soleil jusqu'à Jupiter. Donc la Terre va être engloutie.
La Terre va englober, va arriver jusqu'à Jupiter.
Mars également, et donc. Ensuite, le Soleil va rediminuer de taille.
Donc,
il va
à Jupiter, c'est-à-dire qu'il va englober la Terre. Hein. Il va avaler la Terre.
Hein. Voilà. Et ensuite, sa température de surface va diminuer et il va retomber. Et il va finir une naine blanche.
Une naine blanche, c'est intéressant parce que c'est des états où les étoiles peuvent rester pendant des milliards d'années. Et dans la galaxie, il y a pas mal de naines blanches.
Alors, tout ça pour dire que la question, c'était, il y a différentes étoiles. Est-ce que quand on regarde le Soleil, on apprend des choses sur les étoiles en général ou on apprend surtout des choses sur le Soleil ?
On apprend des choses sur les étoiles, notamment la notion d'habitabilité. Alors, dans la notion d'habitabilité, qui consiste à savoir si, vous savez probablement, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qu'on a plusieurs milliers de on sait que dans notre galaxie, il y a plusieurs milliers de planètes qui tournent autour d'étoiles. Certaines de ces étoiles ressemblent au Soleil, d'autres non. Mais on sait que toutes ces planètes tournent autour de leurs propres étoiles. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces planètes peuvent ou pas abriter une vie plus ou moins intelligente ou des embryons de vie ? Alors pour avoir des embryons de vie, on a l'exemple de la Terre. On sait qu'a priori, il n'y a pas de vie sur Mercure et sur Vénus. Parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Il y en a peut-être sur Jupiter, les satellites glacés de Jupiter dans la glace sous forme des prémices de vie, même avant les acides aminés, mais il y en a peut-être. Mais il y en a sur Terre, vu qu'on est là. Et donc, il faut être à la bonne distance par rapport à l'étoile. Et puis, autre point, j'en viens à votre question, la relation entre l'enveloppe gazeuse de l'étoile et la planète elle-même. Dans le cas de la Terre, le Soleil, qui a une enveloppe chaude, émet un vent solaire et on subit les effets de ce vent solaire. On en a parlé, les aurores boréales, les particules énergétiques, etc. Si le vent solaire était beaucoup plus intense, je ne sais pas, moi je dis 100 fois plus intense, notre champ magnétique ne serait pas suffisant pour nous protéger.
faut bien comprendre donc, que le soleil produit des particules, émet des particules, émet plein de choses, hein, mais donc des particules, notamment le vent solaire.
Ouais.
Le vent solaire, ouais, des particules qui nous arrivent, ces particules sont dangereuses pour les êtres, ouais, vivants.
Oui.
Heureusement, on a un champ magnétique autour de la Terre qui défléchit, si je puis dire, ces particules de telle sorte qu'elles n'arrivent pas sur Terre.
Exactement. Alors,
on est protégé de cette manière. Ce que vous nous dites, c'est que pour certaines étoiles, si le vent solaire est plus important, ben, probablement une Terre, la vie ne pourrait pas arriver.
Si le vent stellaire est trop important, la vie ne peut. C'est un paramètre
sur cette planète
dont il faut tenir compte, le vent stellaire de l'étoile. Je finis quand même sur dans l'exemple solaire. Il y a une planète qu'on connaît bien et pour laquelle le vent solaire a possiblement eu un gros impact, c'est Mars. Vous avez peut-être entendu parler de Mars, vous avez peut-être entendu parler du fameux mystère de l'eau glacée sur Mars. Pourquoi l'eau ? On sait qu'il y a eu de l'eau, on sait qu'il y a eu des rivières, il y a des restes de coulées d'eau, de sédiments, etc.
Des mers peut-être, on dit.
Des mers peut-être. On sait, premièrement. Deuxièmement, on sait qu'il y a de l'eau sous forme glacée dans le sol. Pourquoi ?
De Mars.
Donc pourquoi toute l'eau de Mars est devenue glacée ? Eh bien, l'explication, c'est que l'atmosphère de Mars, au cours de depuis sa naissance jusqu'à maintenant, l'atmosphère, la pression atmosphérique a diminué. Et quand vous diminuez la pression atmosphérique, mais vous maintenez plus ou moins la température, enfin, quand vous diminuez la pression atmosphérique, vous diminuez aussi la température et l'eau liquide devient glacée. Et pourquoi l'atmosphère de Mars a été érodée et partie ? Eh bien, un des candidats possibles, c'est le vent solaire. Sur les 4 milliards d'années de vie du Soleil, le vent solaire a soufflé. Mars, un champ magnétique, de par sa taille, beaucoup moins actif que celui de la Terre, beaucoup moins fort.
Donc le bouclier de Mars.
Le bouclier magnétique de Mars n'est pas assez fort. Et donc le vent solaire érode.
A emporté l'atmosphère.
Exactement.
Il a détruit l'atmosphère.
Et il a détruit l'atmosphère et il n'y a plus d'eau liquide sur Mars.
Il a fait plus froid sur Mars.
Et il n'y a plus il n'y a plus de vie sur Mars. Et donc, pour finir maintenant complètement, il y a des étoiles dans notre galaxie qui perdent une quantité faramineuse de leur propre masse par an. Le Soleil perd de sa masse une quantité qui correspond à 10 puissance moins 14 fois sa masse par an. Donc ça, c'est un tout petit nombre. Vous prenez la masse totale du Soleil et c'est 0,0014 fois 1 fois sa masse. Mais il y a des planètes qui perdent un centième ou un millième de leur masse par an. Donc c'est une quantité des étoiles, pardon. Donc c'est des vents stellaires tellement importants qu'on sait que de toute façon les atmosphères de toutes les planètes qui sont autour sont balayées.
Donc étudier le Soleil permet aussi d'étudier, d'en savoir plus sur les étoiles. Et en savoir plus sur les étoiles, ça permet aussi de se projeter sur est-ce que de la vie est possible autour de ces étoiles.
Tout à fait.
L'autre jour au karaté, je me suis fait démonter. On m'a fait l'imagerie de l'épaule à la clinique. Le radiologue n'était pas un soleil d'été. Mais il avait une belle voix et même un chant magnétique. Et c'est en chantant qu'il a fait son diagnostic. Il m'a dit que le karaté, c'est plus pour moi. Et comme je m'appelle Icar, raté ma vie gelée, alors vers le soleil maintenant je vais m'envoler.
C'est triste cette histoire.
C'est triste et puis c'est pas une bonne idée. Alors il est 20h50. On a déjà entamé une bonne partie de notre soirée. On va se quitter dans environ une quarantaine de minutes. Nous avons traité un des trois mystères. Un seul des trois mystères. Alors il en reste deux. Et donc on va aller d'un bon pas vers ces deux autres mystères. Lequel on choisit ? Kader Amsif, c'est vous qui choisissez.
Le vent solaire.
Ah, le vent solaire, oui, parce que c'est vrai qu'on en a parlé. Donc vent solaire, On a découvert et on a même théorisé, je crois, l'existence d'un vent solaire. C'était Parker, si je ne me trompe pas. Il disait, on a un vent solaire environ 400 km secondes.
Absolument.
400 km secondes, c'est quand même un vent très rapide. Hein. Bon, 400, en une seconde, 400 km. Bon. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres, enfin, qu'il y avait des vents solaires qui étaient plus rapides que ça. Et ça, en fait, c'est ça le mystère, c'est que on ne sait pas expliquer
l'accélération de ce vent au sein de l'étoile.
Alors, qu'est-ce que ce serait votre définition du vent solaire, Kader Amsif?
Déjà un petit peu l'histoire, l'historique que vous avez dit brièvement. Là, c'est dans les années 50, c'est Eugene Parker, un professeur américain, qui a théorisé l'existence du vent solaire. Lui, il avait dit clairement, il y a un vent permanent qui nous arrive du Soleil et toutes les planètes sont balayées par ce vent. Et en fait, il a été décrié par ses collègues jusqu'à dans les années 60, je crois que c'est la sonde de 1962.
Alors décrié, c'est-à-dire que...
Pas cru, enfin, ah ouais. il y en a quelques-uns qui lui ont dit, reviens à la bibliothèque, tu vas étudier un petit peu.
C'est dur la science. Voilà. Hein.
C'était Eugene Parker, il était vivant jusqu'à il n'y a pas longtemps, il est mort il y a deux ans. Et donc, c'est d'ailleurs en son hommage que la sonde américaine s'appelle Parker Solar Probe. Et donc, il a fallu attendre 1962, si je me rappelle bien, les sondes Mariner qui sont allées étudier Vénus. Et qui ont mesuré un vent permanent. Donc, c'est des particules chargées, beaucoup d'hydrogène, 90% d'hydrogène ou plus, quelques électrons, avec une vitesse de 400 km par seconde. Donc là, c'est Eugene Parker, on a ressorti ses papiers. Voilà, donc, et puis.
Ceux qui l'avaient critiqué se sont excusés platement.
Aujourd'hui, on retient que son nom à Parker. Donc, vous voyez, les autres, on les a oubliés.
Ils ont mangé leur chapeau, comme
et
on
mangé
dit.
Leur chapeau, d'accord, voilà. S'ils en avaient un.
Et donc, enfin,
dans les années 50, on portait encore des chapeaux.
Et donc, on a décidé, dans les années 90, je crois, d'envoyer une sonde qui s'appelle Ulysse, dont l'objectif était, entre autres, d'étudier le vent solaire. Et non seulement elle a détecté un vent solaire à 400 km par seconde, mais elle en a détecté un second, qui sort des trous coronaux.
On est dans quelle année, vous dites, 90
1992. Oui, il n'y a pas très longtemps.
Deuxième vent solaire.
C'était ma thèse.
Ah, d'accord. Vous l'aviez prévu dans votre thèse Non, c'était quoi? C'était une thèse justement sur le vent solaire en général.
Ah, mais là, il va surveiller si je dis des bêtises. Ok. Il y a une courbe qui montre très bien l'existence du vent solaire en fonction de la latitude du Soleil. Et on voit vraiment que le vent solaire faible, 400 km par seconde, il est plutôt à l'équateur. Et plutôt vers les pôles, on voit un vent...
Il est produit à l'équateur, c'est ça?
Il est produit à l'équateur. Oui, c'est un vent, c'est un souffle.
Permanent.
Comme a dit Milan, c'est un souffle permanent qui ne s'arrête pas. C'est l'équivalent de masse en énergie que perd le Soleil. Donc jusqu'à l'épuisement d'hydrogène, ça va continuer comme ça. Il ne s'arrêtera jamais, ce vent solaire. Mais là, on a observé un deuxième, donc la sonde Ulysse. On a observé un second qui sort plutôt des pôles et qui est deux fois plus rapide, 800 km par seconde, si je ne dis pas de bêtises. La même composition chimique, etc.
800 km par seconde
de 400,
contre 800. 400 et même composition.
Même composition, même tout, sauf la vitesse, donc qui est forcément accélérée au sein du Soleil. Et c'est là où je me tais et je laisse parler le scientifique qui va dire pourquoi ou je ne sais pas où.
Alors là aussi, Milan Maksimovic, est-ce que là aussi, on a pléthore de théories ou pas? Est-ce qu'on est plutôt démunis là?
Alors, c'est un peu pareil que pour le chauffage. Et d'ailleurs, les deux mécanismes sont très probablement liés. Donc Parker, qui effectivement a été décrié par ses collègues, Parker a soumis son article. Alors pour la petite anecdote, quand on écrit un article scientifique, on l'envoie à l'éditeur d'un journal international et l'éditeur le renvoie, le donne à un scientifique qui travaille dans votre domaine, qui de manière anonyme va lire votre article. Parfois il y a deux rapporteurs, on appelle ça des rapporteurs. Il va lire votre article, il va refaire les équations, il va refaire l'analyse des données, etc. Ça peut lui prendre un mois entier. Et puis, il va juger votre travail, il va dire ce travail est correct ou pas correct. S'il n'est pas correct, je le refuse. S'il est correct, on l'accepte, etc. Donc, c'est un processus de jugement par ses pairs. C'est tout processus scientifique fonctionne comme ça. Et l'article de Parker a été refusé. Et Parker, il était triste et il avait la chance d'avoir dans son laboratoire à Chicago, un dénommé Chandra Sekhar, qui était éditeur en chef de la revue, qui était prix Nobel, qui était prix Nobel de physique, grand astronome indien, astrophysicien indien, et qui a poussé, son article a été accepté. Donc Parker prédisait un vent de 400, et en gros, dans sa théorie, il y a une température dans la couronne, 1 à 2 millions, et c'est cette température, cette énergie thermique d'agitation qui va se transformer en énergie cinétique de mouvement du vent. Donc, en gros, plus c'est chaud, plus ça va vite. Et donc, avec une température de 1 à 2 millions, on arrive à expliquer 400. On n'arrive pas à expliquer 800 avec une température de 1 à 2 millions. Et donc, depuis la théorie de Parker, les observations d'Ulysse et de nos jours, les gens travaillent sur une source d'énergie supplémentaire. Alors, cette source, un des candidats, qui d'ailleurs, au passage, pourrait aussi chauffer la couronne, ce sont les fameuses ondes d'Alven. Pourquoi les ondes d'Alven? Parce que c'est un physicien suédois, Alven, qui les a découvertes. C'est des ondes. C'est, pour faire simple, dans un plasma, je vous ai présenté le plasma, pour faire simple, c'est l'équivalent. C'est pas il existe aussi des ondes acoustiques, mais pour faire simple, c'est des ondes magnéto-acoustiques. C'est des ondes qui sont portées par le champ magnétique dans le plasma, également la vitesse moyenne des particules, mais disons le champ magnétique. Et il y a une vitesse caractéristique qui est proportionnelle au champ magnétique, la vitesse d'Alven. Et donc Alven a fait cette découverte, il a eu le prix Nobel pour ça. C'est quoi les ondes d'Alven? Si là je suis en train de vous parler, je vous parle, les gens qui sont près de moi m'entendent bien, ou je ne sais pas où est le haut-parleur, mais les gens qui sont loin ne vont pas entendre ma voix. Pourquoi? Parce que ma voix, c'est quoi? C'est des ondes de pression. Donc localement, il y a des surpressions, les molécules qui sont dans l'air vont transmettre ma voix par des ondes sonores, mais au fur et à mesure que ces ondes se propagent, elles vont être amorties. Et loin, on n'entend plus ma voix. Cet amortissement, c'est-à-dire l'énergie mécanique qu'il y a dans ces ondes, se transforme in fine en fait en chauffage du gaz. Donc dans une pièce, on chauffe la pièce un tout petit peu, mais la chauffe. Donc tout ça pour dire que des ondes sonores peuvent dissiper leur énergie mécanique dans le milieu. Eh bien, dans un plasma, si vous prenez, au lieu de chanter, on peut aussi jouer de la guitare, donc vous avez des guitares et puis la guitare vibre, ou du piano, ça vibre et ça crée des ondes de surpression. Dans le vent solaire, à la surface du soleil, si vous avez des lignes de champ, les fameuses lignes de champ magnétiques, il y a un mouvement de convection des pieds des lignes de champ, donc tout ça c'est agité. Eh bien, il y a des ondes le long du champ magnétique qui sont des ondes d'Alven qui se créent et qui se propagent dans le vent solaire. Et on en a observé à l'orbite de la Terre. Plus on se rapproche du Soleil, plus on en voit, plus on les caractérise. Et en fait, ces ondes dites d'Alven pourraient être un des candidats de chauffage, d'accélération du vent solaire, mais aussi localement de chauffage. Donc c'est l'autre famille de théories, si vous vous rappelez bien, nano-éruption, onde d'Alven.
Excellent. Onde d'Alven, on les a bien notées. Est-ce que vous avez un instrument pour essayer de vérifier ça, essayer de comprendre
Eh bien, effectivement, mon instrument...
Ah, c'est RPW.
RPW. J'ai travaillé pendant 18 ans.
Oui.
Et le lancement a eu lieu, donc RPW était majeur.
Et donc vous avez...
RPW...
Alors, juste un petit mot, c'est que le jour du lancement, février 2020, là, vous dites, il y a intérêt à ce que le lancement se passe bien.
Tout à fait. Tout à fait.
Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe si le lancement se passe pas bien? Il se passe bien, hein, en général. Bon, là, c'est une Atlas américaine, les Ariane 5 sont extrêmement...
Il y a eu des exemples de scientifiques qui ont travaillé sur des instruments. Alors... Kader pourra raconter le reste.
Dans votre cas, qu'est-ce qui se serait passé?
J'aurais probablement pleuré pendant un certain temps.
Voilà.
J'aurais été très triste, déprimé. Mais j'aurais perdu 18 ans de ma vie, mais presque, un peu. Donc, scientifiquement parlant.
La fiabilité du lanceur, c'est vraiment absolument essentiel.
La fiabilité du lanceur, c'est essentiel. Donc, RPW, c'est en mesure des ondes électriques et magnétiques. Donc, pour mesurer des ondes dans un plasma... Il faut des capteurs.
Un plasma, je rappelle, c'est du gaz ionisé.
Voilà, donc le vent solaire qui est autour de la sonde, on va mesurer les ondes qu'il y a dans ce plasma localement. Vous avez un capteur magnétique qui a été fabriqué par l'université d'Orléans, Et puis vous avez les antennes. L'antenne fait 6,50 m de longueur. Et c'est l'antenne qui mesure les ondes électriques. Et donc l'ensemble de ces capteurs vont envoyer un signal dans un boîtier électronique qui est juste beaucoup d'électronique et un récepteur radio qui est pas forcément très excitant à regarder et qui se trouve à l'intérieur du satellite. Et donc cet instrument mesure les fluctuations électriques et magnétiques dans le plasma, donc les ondes, donc potentiellement les ondes d'Alven. Mais pas seulement, il y a aussi des ondes radio. J'ai oublié de dire RPW, Radio and Plasma Waves.
Exactement.
En franglais.
Vague radio plasma.
Voilà.
Peut-être qu'on peut parler de EUI, c'est ça ?
C'est le capteur magnétique. On voit trois axes, X, Y, Z. Enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à cet instrument aujourd'hui qu'on est sur les grandes missions spatiales internationales. Par Car Solar Probe, par exemple, il y a un seul instrument européen. Il est français, c'est celui-là.
Ah, c'est le même.
C'est le son frère, son cousin, son petit frère.
Il y a une sorte de, il y a un cousin de RPW sur le.
Non. C'est ce qu'on appelle le Search Coil. C'est un magnétomètre vectoriel qui mesure le champ magnétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de science sans le champ magnétique.
Enfin, c'est lui qui est fabriqué à Orléans, c'est ça ?
Exactement.
Ah d'accord.
Orléans aussi maintenant aujourd'hui avec le LPP qui se trouve au plateau de Saclay. L'école polytechnique. Donc aujourd'hui, il y a deux collaborations entre deux labos et c'est une excellence française. C'est pour
l'excellence
ça,
française.
J'insiste là-dessus parce que c'est grâce à des instruments comme ça qu'on est sur des missions spatiales grandioses, comme Parker Solar Probe. Solar Orbiter, c'est différent, elle est européenne, donc c'est normal qu'on y soit. Mais quand les Américains viennent nous chercher, quand les Japonais viennent nous chercher, c'est pour des instruments comme ça et c'est unique en France. Voilà.
Alors, y a donc, la France contribue. Kader Amsif, à 5 des 11 instruments, c'est ça ?
À 6 des 10 instruments. Dans une fourniture complète qui est RPW, un instrument complet.
Pourquoi
RPW.
Est-ce que la France s'investit autant dans le Solar Orbiter ? Non, pas dans le spatial, dans Solar Orbiter.
C'est parce que c'était une mission phare, c'est une mission poussé par l'Europe, mais non seulement, parce que ce que dit pas Milan, c'est qu'il est PI, enfin c'est
un des responsables scientifiques.
Un des 10 scientifiques responsables
des instruments qui sont validés. Lui, il est sur RPW, absolument.
Voilà. Et il a co-réfléchi avec d'autres collègues. Il avait
co-conçu.
Absolument.
Co-conçu et on a fait du lobbying dans le sens noble du terme auprès de l'Agence spatiale européenne. Avec le soutien du CNES, c'est un long processus avant qu'une mission voie le jour. Et donc, il faut avoir l'idée scientifique, mais après, il faut faire du lobbying, il faut convaincre l'agence, etc. Il y a tout un processus de sélection. Et dans ce processus de sélection, en général, l'Agence spatiale européenne fabrique le satellite lui-même, avec une cagnotte qui vient de tous les pays de l'Agence spatiale européenne. Et les instruments sont financés par les États. Et donc la France, et la Kader peut redonner les détails, a financé pas mal des instruments parce qu'en France, on a un savoir-faire dans ce domaine.
Alors dites-nous un mot de la manière dont justement RPW a été sélectionné. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a une sorte d'appel d'offres à un moment donné ?
Alors il y a un appel d'offres, tout à fait. Comme je disais, donc tous les pays contribuent au pot commun de l'ESA, du programme scientifique, proportionnellement à leur PIB. Donc la cagnotte se remplit et à un moment donné, la direction de l'ESA dit bon ben voilà, on va faire une mission de cette classe-là, moyenne, grande, et avec ce coût, un coût donné, par exemple 500 millions d'euros pour le satellite. Ils donnent l'enveloppe donc du coût du satellite et ils se tournent vers les scientifiques de la communauté européenne, mais aussi des collaborations. Il y a des collaborations aussi d'autres pays sur américaines, notamment sur Solar Orbiter. Et là commence un processus d'envoi d'idées, de sélection d'équipes scientifiques, de présentation au niveau de l'ESA, présentation au niveau des instances de sélection de l'ESA. Et puis, s'il y a plusieurs projets concurrents, eh bien, il y a une sélection basée à la fois sur des mérites scientifiques et aussi sur des capacités industrielles en aéronautique en Europe.
Et un petit peu de financement aussi.
Et un peu de financement.
Ça compte aussi. Je voulais demander donc à Kader Amsif pourquoi la France est-elle sur 6 des 10 instruments ? Qu'est-ce qui fait que la France souhaitait, sur cette mission-là, être quand même assez présente, même si on n'est pas à chaque fois le PI, on n'est pas à chaque fois le responsable de chacun de ces instruments, mais on a à chaque fois des participations.
Oui, oui, là, c'est une grosse partie. Ça se note. Hein. On ne fait pas beaucoup de missions comme ça, de cette envergure-là, aujourd'hui. On a des petites contributions. Mais à l'époque, on avait, c'était le grand... Enfin, j'allais dire le grand CNES. Non, j'allais dire une bêtise. On avait de grandes idées. On était pionniers sur beaucoup de choses. La communauté française était première dans beaucoup de domaines. Là, c'était européen. Donc, je crois qu'il y a 12 ou 13 pays membres qui ont participé. Mais la France était pas loin du deuxième pays, le plus gros contributeur à cette mission. Bah, c'est pas, on sait choisir les thèmes. Enfin, je le dis ça maintenant avec du recul parce que ça marche bien. Mais je pense qu'à l'époque, on savait prendre des risques. Il y avait de l'innovation, il y avait des idées. On a la chance en France d'être le seul pays. Pardon. On a une agence spatiale à part. Avec des moyens propres qui viennent du gouvernement, bien sûr, mais on a des scientifiques. Cette configuration-là n'existe pas ailleurs. C'est différent aux États-Unis et tout ça. C'est pour ça qu'on arrive à travailler ensemble. On forme un binôme d'excellence. Voilà. Et j'espère que ça va perdurer. Donc, c'est ça.
Dans les années 50, on te prenait pour un con, alors qu'aujourd'hui, à toute heure, Mr. Parker, on ne retient que ton nom, et on le retient par cœur. Tes pères te prenaient pour un ringard, on disait que tu brassais du vent, alors qu'aujourd'hui, grâce à ces cars, tu es devenu dans le vent. Tous avec moi.
Merci.
Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure des vents solaires. Je voulais savoir comment est-ce qu'on mesure la vitesse du vent solaire et plus largement la vitesse des vents stellaires.
Alors, la vitesse du vent solaire, c'est, j'allais dire, c'est relativement simple. Vous prenez un détecteur de particules, donc en gros une boîte, enfin très schématiquement, une boîte avec un trou. Et vous mesurez l'énergie ou la vitesse des particules. Donc la vitesse à laquelle, donc pour les protons, vous prenez un détecteur de protons, pour les électrons, un détecteur d'électrons. Et donc il y a un champ électrostatique qui est appliqué. Et donc on fait varier le champ électrostatique. Et comme ça, on sélectionne les particules en fonction de leur énergie ou de leur vitesse. Et donc on compte, c'est un compteur de particules. Et on a une distribution, donc, en vitesse des particules, donc on en a aux alentours de 100 km par seconde, pas beaucoup, puis après on monte à 120 km par seconde, etc. Et si on balaye toutes les vitesses, on a une espèce de courbe en cloche, et la moyenne, c'est la vitesse du vent solaire. Donc on mesure individuellement les particules, on est capable, on a des détecteurs dans l'espace, notamment nos collègues de Toulouse, qui sont également soutenus par le CNES, qui peuvent mesurer les protons un par un.
Autre question, le vent stellaire, le vent solaire, le vent stellaire, donc c'est le vent des étoiles. Donc ouais. Quand on est sur Terre, on voit le vent solaire, effectivement. Est-ce qu'il y a aussi un vent stellaire, un vent qui viendrait des étoiles de la galaxie, du fond de la galaxie?
Alors, il y a un vent. Alors, observé sur Terre, il n'y a pas de vent stellaire. Il y a un milieu interstellaire qu'on peut mesurer quand on est très loin du Soleil. Mais on voit le vent stellaire par, en gros, la lumière, l'imagerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, l'essentiel de l'information qui vient des étoiles, même si elles sont elles-mêmes constituées de plasma, il faut savoir que ça dépend comment varie le chiffre, mais aux alentours, je dirais 95-98% de la matière dite baryonique, c'est, j'oublie l'énergie noire, la matière noire des cosmologues, etc., c'est un autre sujet, mais la matière
baryonique, c'est la matière de...
Voilà, la matière baryonique, c'est la matière...
De cette table et de vous et moi.
Voilà. Eh bien, 95% de cette matière est sous forme de plasma. Mais on ne voit pas ce plasma parce qu'elle est très loin, on ne le capte pas. Avec le vent solaire, on a la chance de capter le plasma du Soleil, vu qu'on est à côté. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est les phénomènes lumineux qui sont liés à la présence de ce vent. Tout comme, par exemple, sur la couronne... solaire, on voit la couronne et on voit la manière dont les lignes de champ sont déformées, etc., en faisant de l'imagerie en lumière blanche. Eh bien, en faisant de l'imagerie des étoiles, on arrive à faire de l'imagerie des étoiles, on arrive à avoir une très bonne résolution. On voit donc des mouvements de matière. On peut aussi mesurer la vitesse perpendiculaire en mesurant il y a une technique dite de Doppler dimming. Enfin, on peut mesurer donc, par spectroscopie, par lumière, la vitesse de la matière qui s'échappe des étoiles.
Le vent solaire dont vous parlez, c'est le même vent, c'est celui qui va être utilisé pour propulser certaines sondes, puisqu'il y a des projets de voiles solaires. Alors, on a eu un bar des sciences, on parlait de ça.
Oui, alors c'est également une bonne question. Et en fait, non. On confond souvent le vent solaire. Et on a dans la pression, on se dit c'est un vent, c'est celui qui fait souffler les voiles solaires.
Mais quand une voile solaire est poussée, elle n'est pas poussée par le vent solaire.
Non, alors elle est poussée un tout petit peu, mais par la pression de photons.
La pression de photons.
Donc si on peut calculer, par exemple, vous prenez un mètre carré de papier aluminium que vous mettez dans l'espace, on peut calculer la pression du vent solaire, en gros qui est la masse fois la vitesse au carré, et on peut comparer cette pression à la pression de photons. Tous les photons qui tapent sur le papier albalbe vont rebondir.
Les photons, c'est la lumière.
C'est la lumière. 1000 à 10 000 fois plus important, la pression photonique des photons, de la lumière, est beaucoup plus importante que la pression du vent solaire, même si le vent solaire a des effets non négligeables. Il a une pression dynamique plus faible que les photons. Et en fait, l'énergie transportée par photon, in fine, est plus importante que transportée par...
On a compris.
Et donc, du coup, c'est les photons qui poussent les vents solaires.
Alors, on va passer à notre dernier mystère.
Oui.
C'est le cycle de 11 ans.
Oui.
Donc, quelle page va-t-on ?
De 12. Transparent.
On va page 12, s'il vous plaît.
Et je commence par le paragraphe qui est en haut. En fait, on regarde le soleil, on observe le soleil depuis 1700, depuis les années 1700, avec une simple lunette, en prenant les précautions, bien sûr, ne pas regarder le soleil en direct. Et on comptait le nombre de taches qui apparaissaient sur le soleil. Et en fait, on s'est aperçu de plusieurs choses.
Le nombre de taches.
Ça, c'est ce qui est reporté. Chaque point rouge, c'est une tache qui est reportée en fonction de la latitude que vous voyez à gauche et la date qui est en bas. Donc, vous voyez, ça commence en 1870 jusqu'en 2020. Et en fait, on a remarqué quelque chose, enfin trois choses, si j'arrive à me rappeler. D'abord, que les taches apparaissent vers les pôles, vous voyez, et ça commence à descendre. Ça, c'est l'une des premières observations. On le voit facilement. C'est pour ça qu'on appelle ce diagramme le diagramme papillon. Et en fait, les taches, elles descendent du pôle et vont vers l'équateur. Et cycliquement, de façon imperceptible, cyclique, répétée, tous les 11,2 en moyenne, ça revient. Les taches apparaissent, elles descendent vers l'équateur. Elles réapparaissent, elles descendent vers l'équateur. Première chose. Deuxième chose, on a remarqué que le Soleil, tous les 11,2 années, il change d'activité, il devient calme. Il y a des images de Soho qui nous ont montré le Soleil tous les ans pris pendant 25 ans.
Soho, c'est une mission d'observation.
C'est une mission
du soleil,
d'observation qui se européenne. Trouve au point de Lagrange. C'est un coronographe. Un coronographe, c'est quelque chose qui permet de simuler une éclipse. Donc on cache l'objet central et on voit la couronne. Et en fait, on a photographié le Soleil tous les ans à la même époque. Et on se rend compte qu'il est actif. Ça veut dire quoi actif ? C'est qu'il y a beaucoup plus d'éruptions, beaucoup plus de lumière blanche, jaunâtre dont a parlé Milan. Et quand il n'est pas actif, il est sombre, il est plutôt calme, il y a moins d'éruptions. Et on a vu que tous les 11 ans, cette humeur-là du Soleil est changeante. Ça, c'est la deuxième constatation. Et la troisième, c'est que tous les 22 ans, donc tous les deux cycles, le pôle nord devient le pôle sud magnétique du Soleil. Il s'inverse. Et ça,
le pôle nord devient le pôle sud et le pôle sud devient le pôle nord. Tous
exactement.
Les 22 ans.
Ouais, ça tous commence les deux à s'inverser, cycles. À se changer en moyenne. Là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas, mais bon, peut-être que toi, tu le sais. Et ce qui est étonnant, c'est que là, aujourd'hui, on appelle ça le cycle 25, qui a commencé fin 2019. Vous le voyez ici, là. Vous voyez, on ne voit pas très bien 2018-2019. La courbe rouge, c'est les prédictions de l'état du Soleil pour le cycle 25, donc depuis 2019 jusqu'à 2029. Et en fait, ces prédictions-là, elles sont fausses. On se rend compte qu'aujourd'hui, le Soleil est beaucoup plus actif que ce qui était prévu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a beaucoup plus d'éruptions. Moi, j'ai lu qu'on avait pas loin de 10 en ce moment, pas loin de 10 éruptions, 100 éruptions par semaine, qui sont envoyées un peu dans le ciel. Hein, elles nous arrivent pas toutes sur la Terre. Donc, il y a pas mal d'éruptions, et ça va continuer au maximum, qui est de en 2025.
Un cycle de 11 ans, tout à fait étonnant.
Enfin, le Soleil, c'est, alors il faut se rendre compte, le Soleil, il tourne dans tous les sens. Hein, l'équateur tourne plus vite que les pôles, le cœur plus vite que la
surface. L'équateur tourne plus vite que les pôles. Hein.
Oui. Ben, l'équateur, c'est 25 jours et les pôles, c'est 35 jours de mémoire.
Le cœur, une sorte de viscosité.
Absolument. Le cœur, 4 fois plus vite que la surface. Donc, il y a une certaine ambivalence entre le Soleil qui est très turbulent et le cycle. Tous les 11 ans, ça revient.
Ah oui, le cycle est très turbulent et on a ce cycle. C'est ça qui vous étonne. Juste, on va aller très rapidement sur ce mystère-là, Milan Maximovic. Mais là, vous n'avez pas tellement de théories, si j'ai bien compris. Autant, on avait pas mal de théories sur les autres, là, moins, non?
Alors, il y en a, ah. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas ma spécialité, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ouais. Juste pour une petite remarque sur ce que Kader a dit. Il a dit que le cycle est beaucoup plus actif que les prédictions. On peut aussi se dire que les prédictions ne sont pas complètement bonnes. Et que voilà, donc ce n'est pas facile de prédire le cycle du Soleil.
Tant de cycles que ça, hein, depuis 1870.
Voilà, alors deux mots sur le cycle solaire. C'est relié, bien évidemment, c'est le nombre de tâches en fonction du temps. C'est lié à la manière dont le champ magnétique émerge du Soleil. Et on sait que cette vitesse déjà de rotation à la surface va jouer un rôle important. Et aussi la différence de vitesse de rotation entre le cœur, le noyau, le cœur, et la région entre le noyau et la surface, qui est la région de convection. Et la limite entre les deux, il y a une région qui porte un nom savant qui s'appelle la tachocline. La position de la tachocline va jouer sur le cycle. Et les gens qui travaillent là-dessus se posent la question de où se trouve exactement à l'intérieur la tachocline. Et un des moyens de donner la réponse, c'est de faire la sismologie. Et pourquoi Solar Orbiter va être intéressant pour observer les pôles, si vous vous rappelez, c'est qu'on fera mieux la sismologie globale, y compris celle de l'intérieur, y compris celle de la position de la tachocline. Et donc, dans ce mécanisme de dynamo, on commence et on devrait arriver en principe à la réponse sur pourquoi 11 ans, pourquoi pas 17, pourquoi pas 25. Au passage, il y a des taches solaires sur d'autres étoiles et elles ont des cycles plus courts ou plus longs.
Il y a à chaque fois des cycles quand même.
Souvent, il y a des étoiles variables, il y a des étoiles qui sont cycliques dans la plupart des cas.
Moi, j'ai juste une question. Comment on mesure l'inversion des pôles? Parce que c'est tellement loin et tout. Genre, on se réveille un matin, on regarde le soleil, on fait là aujourd'hui. C'est la tournée, enfin la première fois que c'était mesuré, c'était parce que j'imagine qu'il n'y avait pas ces instruments et tout, donc c'est...
Alors on peut mesurer en faisant toujours la spectroscopie, c'est un des moyens,
Analysant la lumière du soleil.
En analysant la lumière qui vient des taches solaires, on peut mesurer ce qu'on appelle l'effet Zeeman, et donc on peut mesurer la direction du champ magnétique tout bêtement, et quand on mesure une tache solaire et qu'on fait... on mesure l'effet Zeeman, on se rend compte que la tache solaire, en fait, c'est un paquet de taches solaires qui est toujours constitué d'un pôle plus et d'un pôle moins. Et donc, les taches qui viennent des pôles, elles ont une certaine polarité et elles migrent, comme Kader l'a expliqué. Et donc, le pôle nord va vers le sud et le sud va vers le nord. Et donc, la polarité magnétique, c'est en mesurant l'effet Zeeman sur les taches solaires.
Ça se fait assez facilement.
Assez facilement, non, c'est pas une mesure. La polarité du champ magnétique, c'est pas sa direction, c'est pas une difficulté. La difficulté, c'est son amplitude dans la couronne. Là, c'est plus compliqué. Les gens aimeraient bien connaître quand on s'éloigne, donc quand le vent solaire part, dans les premiers rayons solaires, quelle est l'intensité du champ magnétique. Ça, c'est plus compliqué que sa direction.
Alors peut-être que j'ai une dernière question pour terminer. C'est à propos de ce qui se passe au centre du Soleil. C'est les réactions de fusion atomique. Les conditions sont tellement dantesques, il y a tellement de pression, je suppose, et puis surtout de chaleur, qu'on est en mesure de faire en sorte de faire fusionner des atomes. Et ça dégage énormément de chaleur, davantage que ce qu'on a dans nos réacteurs nucléaires, qui est la fission, où là, on casse de gros atomes. Fusion nucléaire, donc ça fait un peu rêver, parce que si on arrive à la maîtriser, on produit énormément d'énergie, on fournit l'énergie, mais on en produit énormément plus. Et donc, on a un projet sur Terre, c'est le projet ITER, hein, qui est auprès de Marseille, où on va essayer de réaliser cela à petite échelle. Hein. Et bien là, il y avait aussi des annonces de fusion froide. Ça vaut quelque chose, ça, la fusion, fusion froide, c'est-à-dire de la fusion sans besoin de chauffer comme le Soleil le fait.
Alors,
qu'est-ce que ça vaut, ça?
À titre personnel, je n'ai pas à regarder en détail ces articles. Moi, c'est des expériences qui ne sont pas encore complètement comprises et expliquées. Donc, il y a eu des articles, etc. Pourquoi moi, je suis dubitatif? Parce que je ne connais pas de mécanisme de fusion autre que d'augmenter la température d'un gaz. Pour revenir au fameux coronium, je vous disais tout à l'heure que qu'est-ce qui ionise? Qu'est-ce qui fait que les électrons peuvent s'arracher? Il faut faire se collisionner des atomes entre eux. Et en se collisionnant, eh bien, les électrons vont être éjectés. Pour collisionner suffisamment fort, il faut que l'agitation thermique soit importante. Donc, le seul moyen d'expliquer le Duffer 13, c'est 1 million de Kelvin. Pour aller au-delà de l'interaction entre atomes et la fusion, c'est quoi? C'est la fusion de noyaux. Donc, ce sont des noyaux positifs. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur de l'atome. Pour faire fusionner l'atome, le seul moyen que moi, je connaisse, c'est une agitation thermique, une telle vitesse moyenne entre les atomes entre eux que quand ils se collisionnent, eh bien, la force répulsive coulombienne, donc là, le fait que deux particules positives se repoussent, pour vaincre cette barrière, il faut en gros 10-15 millions de Kelvin, degrés. Moi, je ne connais pas de mécanisme de fusion froide. Je n'ai pas regardé le détail de ces articles. Je ne dis pas que ses collègues sont des charlatans, loin de là, mais je ne peux pas me prononcer.
On en a pour combien de temps là, avec toutes les informations que fournit cela à orbiteur? Combien de temps est-ce que la sonde va durer? Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir étudier les données fournies par la sonde?
Combien de temps? Il n'y a pas de limite. C'est des données qu'on amasse aujourd'hui et qu'on va étudier. C'est des thésards, des doctorants, des post-doctorants qui vont travailler dessus pendant des années. On estime plus ou moins sur une mission que pour une mission donnée, il y a pratiquement 20 ans de science assurée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit les meilleurs satellites. Avec Solar Orbiter, on en a, je crois, si je me rappelle bien, jusqu'en 2029. À partir de 2025-2026, on va changer de mission un petit peu. On va changer un petit peu d'objectif parce qu'on va aller étudier les pôles. Et donc, ça va être une nouvelle science. Je crois qu'on s'arrêtera en 2029.
Juste une remarque quand même, les données de Solar Orbiter, les mesures de vent solaire, les images, tout est public. Donc on est arrivé dans une nouvelle ère, à la fois NASA et ESA, pour les missions, c'est vrai pour les missions solaires, c'est un peu plus compliqué pour la planétologie, les missions qui s'intéressent aux planètes. Nos collègues planétologues partagent plus difficilement leurs données. Mais en tout cas, nous, quand on produit des données, il y a une espèce de contrat avec l'ESA. Toutes nos données doivent être publiques et elles sont publiques, accessibles à tout le monde. Vous pouvez tous accéder au site de l'ESA, si vous voulez. Et donc, quand je dis ça, par exemple, les collègues étrangers, indiens, chinois, sud-américains, maintenant africains, ça commence... Tous les collègues tous les scientifiques de tous les pays peuvent utiliser les données et publier. Et d'ailleurs, ils le font. Il y a des gens qui n'ont pas contribué, il y a des pays qui n'ont pas contribué du tout à la mission, mais qui utilisent les données, qui les publient. Et ça augmente le savoir de l'humanité dans son ensemble.
Voilà, c'était le dernier mardi de l'espace de la saison. Solar Orbiter, on l'a compris, des mystères absolument passionnants, des physiciens qui regardent ça de très très près et avec un grand détail. Et puis il faut aussi des responsables spatiaux pour mettre tout ça en musique. Belle participation française. Et puis on va voir les résultats. Et puis peut-être qu'on saura pourquoi le soleil bat comme ça tous les 11 ans, par exemple, pourquoi sa couronne est si chaude. Et bien sûr, on saura grâce à vous, bien sûr, comment produire une énergie fiable, pas chère et éternelle. Merci infiniment à tous. Merci, bonne soirée et au 17 octobre. Au revoir.